Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Quoi de Neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Eh bien, il est 17h, donc on est à la mi-temps, on va dire ça, mais on va redémarrer tout de suite la partie en parlant du kino. Le kino, donc le ciné de l'Université de Lille à Pont-de-Bois, avec deux personnes qui nous ont rejoints. Donc l'une étant Clément. Bonjour Clément.
Salut, salut.
Et puis Quentin, si c'est bien ça, hein, Quentin.
C'est bien ça, bonjour.
Voilà, bonjour. Donc, je ne vais pas dire que vous êtes des habitués du plateau de Radio Campus, quoique, on vous connaît un peu ici, puisque vous présentez régulièrement avec Brian, hein, personne qui se charge notamment de tout ce qui est information universitaire.
Tout à fait.
Vous intervenez, puisque vous êtes le cinéma de l'Université de Lille.
Et quel cinéma ?
Eh bien oui. Donc, j'aimerais bien qu'on présente un petit peu ce cinéma très particulier qui est né il y a très longtemps. Si ma mémoire est bonne, il y avait à l'époque Louisette Faregno qui a créé un peu ça dans une option filmographie ou filmologie, pardon.
C'est ça, tout est parti de là.
Voilà, et tout est parti de cette aventure-là. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette expérience assez unique en France, avoir un cinéma qui avait quand même beaucoup d'espace hein, dans l'université, qui occupait vraiment un cinéma, je ne sais pas combien, 400 places hein,
316 places.
316, j'étais pas trop loin.
C'est ça.
C'est quand même imposant dans le lieu. Et il a réussi à se maintenir, à perdurer en tant que cinéma, en tant que salle pour différents spectacles aussi que j'ai pu voir là-bas. Et donc un lieu, on va dire, d'une certaine manière permanent en plus dans l'université, contrairement à beaucoup de choses qui s'arrêtent le week-end, etc. Là, on a un lieu permanent dans la journée, le soir et le week-end, c'est un peu ça.
C'est ça, tout à fait. En fait, on faut nous concevoir vraiment comme un réel cinéma. Même si le projet au départ, en 1969, était de créer un ciné-club. Lorsque Jacques Morin s'invite dans le projet en 1974, il a comme idée de faire un cinéma avec une licence commerciale, une licence CNC, qui lui permettait à l'époque de diffuser les derniers films en 35 mm. Et pas seulement comme on peut trouver beaucoup de ciné-clubs en France dans des universités où on diffusait des 16 mm, des VHS, puis aujourd'hui du DVD. Ici, nous avons un vrai cinéma qui peut donc diffuser les séances des films qui sortent et en plus de cela, accueillir des spectateurs de tous les horizons. Donc ce cinéma a perduré au fil des années avec une programmation toujours un petit peu en décalé à la fois dans le temps mais aussi dans le choix de la programmation. Passer des films que les autres ne vont pas forcément passer. Passer des films qui sont restés qu'une ou deux semaines à l'affiche dans les gros cinémas mais qui nous ont touchés, d'ailleurs on en verra un petit peu tout à l'heure aussi, et que nous souhaitons repasser 3, 4, 5 semaines après leur diffusion originale. Et donc voilà, c'est aussi de proposer aux étudiants des séances de films classiques, des rétrospectives, des films que l'on considère comme étant importants dans une cinéphilie, surtout dans une faculté où il y a énormément d'élèves en cinéma, des films qui sont importants à découvrir et à revoir, surtout sur grand écran.
Alors bien sûr, est-ce qu'on peut dire que c'est un cinéma associatif ?
Tout à fait, c'est une association étudiante.
Mmh. Et donc ça se ressource, hein, c'est la permanence fait que, enfin, nécessite que vous puissiez vous passer le relais à certains moments.
Tout à fait, puisque alors moi je suis nouveau président et je suis arrivé au mois de janvier. J'ai été élu au 1er janvier. C'est un cinéma que je découvre et que je découvre encore aujourd'hui et auquel je prends beaucoup de plaisir à participer. Et c'est vrai que quand on discute avec les personnes qui étaient là depuis quelques années, on voit que c'est un savoir qui se transmet depuis donc 1974, la création, à la fois dans le choix des programmes, parce qu'on retrouve même quelquefois des programmes des années 80, 90, voir qu'est-ce qui passait à l'époque. Et on se rend compte même que quelquefois, un film qui est sorti en 85, par exemple, on le repasse aujourd'hui en séance spéciale. C'est aussi transmettre donc aux bénévoles, puisqu'une fois qu'on sait comment fonctionne un cinéma, comment fonctionne une cabine de projection, comment fonctionne une caisse de cinéma, et bien le transmettre aux bénévoles qui vont ensuite derrière le transmettre aux prochains, etc., etc. Ça permet réellement une transmission de savoir dans ce domaine, le cinéma, qui est c'est vrai, assez peu étudié. Il n'y a pas d'école d'exploitants.
Ouais.
Il n'y en a quasiment plus, enfin tous les trucs de projection, avant il y a des formations, mais maintenant ça n'existe plus. C'est vraiment un milieu assez fermé, et nous on propose justement à des petits étudiants, moi il y a 6 ans, j'étais tout jeune, je suis rentré du coup à la faculté de Lille pour faire une L1 cinéma, et justement j'étais bénévole à cette époque, et là en 6 ans moi j'ai vu du coup qu'est-ce qui a évolué un peu en interne au kino, mais c'était ça, c'était en effet être un lieu de rassemblement pour les jeunes qui sont en licence de cinéma ou pas. On a des gens qui sont même pas des fois de ce campus-là, mais qui sont dans l'université de Lille en général, mais ça peut être Lille 2, Lille 3, enfin Lille 1, même si maintenant on n'utilise plus trop cette dénomination. Et c'était vraiment un lieu d'accueil. Là, on va discuter avec les gens de nos passions et leur transmettre, en fait, du coup, un peu comment faire une caisse, comment faire une projection. Et c'est vraiment un peu découvrir l'envers du décor, qui est quelque chose qui est vraiment très... Enfin, voilà, moi, j'ai regardé... ça fait quand même pas mal d'années que je joue au cinéma, et à aucun moment, je me suis dit, un jour, je vais découvrir c'est quoi une cabine de projection, comme ça.
Alors, une cabine de projection, est-ce qu'il y a encore un projectionniste dedans ?
Ah bien sûr, c'est essentiel.
Ah oui.
Même s'il n'a pas le même travail qu'auparavant, il monte plus les bobines en 35, il les met plus dans le projecteur, il doit plus changer la bobine au milieu du film, etc. Tout est aujourd'hui est en numérique, mais il faut s'occuper de commander les films, de recevoir les films en numérique, les mettre dans le serveur de projection, recevoir les clés de décryptage, etc. Techniquement, c'est toujours un métier complexe, c'est vrai. Qui nécessite quand même pas mal d'apprentissage. Ce sont des automatismes qui viennent au bout d'un moment. Mais si on ne suit pas toutes les étapes et qu'on n'a pas tout le process numérique, eh bien, le film ne passe pas. Si c'est mal fait, au moment de lancer le film, ça ne fonctionne pas. C'est un métier qui va être moins manuel, mais qui va quand même demander une gestion importante, oui.
D'accord. Il n'y a plus de films qui, comme il arrivait parfois avant, brûlent, s'enflamment.
Alors aujourd'hui, ça brûle plus.
Aussi.
C'est l'avantage du numérique, c'est que c'est fluide, tout du long. Voilà. Pas de risque que ça saute.
Bon. Il peut avoir des problèmes de projection... que le film saute quand même, mais oui, voilà. Il y a moins de dégâts, il y a moins de morts maintenant.
Il y a moins de morts, voilà. Disons que la plus grosse peur, c'est la panne électrique. Hein.
Ah, oui.
C'est tout, en fait, c'est une coupure électrique. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose.
Bon, même nous, hein, ici, c'est pareil, c'est déjà arrivé cette année, hein, notamment.
Ou une
2022.
Tempête aussi, ça peut être par hasard.
Effectivement. Hein. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'on attend vos dons pour arriver au montant possible de réinstaller une antenne. Hein. Voilà, ici, ce n'est pas facile. Bon. Donc, je ne suis pas venu pour parler de l'antenne de Radio Campus, mais pour parler aussi de votre programmation. Donc, première chose, vous m'avez dit en gros que l'équipe aimait bien présenter des choses originales, qu'on ne voit pas beaucoup, qui sont passées, mais qui ont été retirées assez vite et que vous pouvez reprendre. Est-ce qu'on peut se fournir en film de tous les pays, de toutes les catégories, assez facilement, ou c'est très compliqué pour... alors que des films, j'imagine, on en trouve des films intéressants dans tous les pays. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus complexe, hein, en termes d'importation, de droits, je ne sais pas.
Tu veux y aller, Quentin ?
Oui, pourquoi pas. Alors, en fait, on ne conçoit pas la distribution d'un film selon sa nationalité. Y a un producteur donc, qui a les droits du film, mais qui après cède, vend, loue les droits à des distributeurs dans tous les pays. Et pour qu'on puisse diffuser un film, il faut que le film ait un distributeur français. Alors, quand vous allez avoir une grosse production internationale, Universal, Warner Bros, ou Walt Disney, par exemple, pour le film Nightmare Alley que l'on diffuse, eh bien, c'est Walt Disney qui a produit le film et qui le distribue dans le monde entier. Mais quand on va avoir un film un peu plus indépendant ou qui va être très localisé dans un pays, comme je pense, par exemple, Au Diable n'existe pas, que l'on a diffusé il y a quelques semaines, qui est un film iranien. Exactement.
Très beau film.
Très beau film qu'on a passé de nombreuses fois, il faut dire, qu'on aime beaucoup au Kino. C'est un film qui a un distributeur français qui s'appelle Pyramide et qui a contacté les ayants droit iraniens pour leur demander s'ils pouvaient, pour telle somme, distribuer le film en France. Donc nous, on ne peut pas dire, ah ben tiens, on a envie de passer un film polonais. Est-ce que tel film polonais, on peut acheter les droits ? Voilà, il y a un catalogue. De films qui sont distribués en France. Et voilà, si le film a un distributeur français, un visa de diffusion d'exploitation en France, eh bien, nous pouvons le diffuser.
D'accord. Donc, si je prends par exemple des films chinois qu'on voit en Chine, on peut ne pas les voir en France.
Tout dépend s'il y a un distributeur qui prend le risque, même quelquefois, puisque des fois il engage beaucoup de frais sans être sûr que le film puisse fonctionner. S'il n'y a pas un distributeur qui s'intéresse au film et qui le distribue en France, nous, on ne peut pas le diffuser.
Est-ce qu'il y a des films qui sont... Pourquoi pas boycotter, interdit, est-ce qu'il y a des films qui ne circulent pas pour des raisons politiques, puisqu'en ce moment, on est un peu sur ces idées-là ?
En France, non.
En France, pas vraiment. Hein.
Mais il y a en effet d'autres pays, là où il y a des... je pense, là, on parlait des films Disney, qui sont des films diffusés à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de films, je pense notamment quand ils passent en Chine, il y a des scènes pour des sujets un peu brûlants, genre sur la représentation des homosexuels, là où les scènes sont coupées, là où il y a des remontages, où les films sont carrément interdits en salle. Bon là, je sais pas ce qui va en être de la Russie, mais je pense que oui, on va pas voir le dernier Marvel à Moscou avant un petit moment.
Bon, en même temps, diffuser des Walt Disney, enfin des films de Walt Disney, c'est pas forcément les producteurs les plus indépendants. Comment justement on équilibre une programmation entre, je vais pas dire forcément tout n'est pas forcément grand public chez Walt Disney, quoique. Il y a quand même des intérêts commerciaux derrière, mais il y a par contre des réalisateurs ou des maisons de production qui ont des projets qui sont comment on peut dire, des concepts parfois, ou des choses très ténues et engagées. Comment on arrive à faire l'équilibre ? Et est-ce qu'il y a des choix, justement, dans un cinéma universitaire qui peuvent s'imposer naturels ?
Oui, bien sûr. Après, même ce genre de film, c'est quand même des questions financières, hein, pour les distributeurs. Je pense à UFO ou à d'autres petites boîtes de distribution, là où il y a, on va dire, entre 10 et 50 salles en France, sur toute la France, qui sont projetées. Donc déjà, on se dit que sur l'île, on a quand même beaucoup de chance et une très belle programmation assez diffuse, assez éparse. Je me suis perdu dans mes pensées.
Il faut dire qu'en France, le cinéma est quand même beaucoup aidé au niveau des financements. Oui. Même au-delà de la France, le CNC, même en Europe, il y a beaucoup de financeurs privés comme publics. Pour répondre à cela, justement, à se dire, mais est-ce qu'un film est plutôt commercial, plutôt indépendant, le CNC a créé plusieurs labels, dont le plus connu qui est le label ARC. Nous avons donc au Kinociné le label ARC, puisque nous diffusons plus de 90% de films ARC. C'est un label qui est attribué par le CNC, qui au moment de remettre le visa d'exploitation d'un film, quand le film est distribué, on demande au CNC de visionner le film, ils visionnent le film, ils attribuent un visa, ils définissent une limite d'âge si nécessaire. Et ils vont attribuer des labels qui vont permettre justement de mettre plus en avant certains films. Le label ARC, qui après a plein de sous-labels, recherche et découverte, jeune public, patrimoine et répertoire, ou répertoire et patrimoine, je ne sais plus dans quel sens c'est. Et donc justement, un film produit par Walt Disney ne va pas forcément avoir le label ARC. Si derrière il y a parce que Walt Disney est producteur et distributeur, mais pour certains films il ne va être que distributeur, par exemple, et dans le cas du dernier film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, le CNC a fait le choix d'attribuer le label ARC, puisque à la fois dans son propos, dans ses techniques de réalisation, mais aussi dans son financement, il y a quand même une part indépendante et d'ARC. Voilà, le film n'est pas à but 100% commercial.
Il faut faire la distinction quand même entre le cinéma ARC et un peu le cinéma expérimental. Gens pensent à ARC, ils disent c'est des choses dont on va rien comprendre, mais il y a des films très familiales, très accessibles, dont des films d'animation. Je pense au Peuple Loup, qui était un film magnifique qu'on a diffusé il y a quelques mois. Ça, c'est labellisé ARC, et pourtant des enfants de 6 ans arrivent à comprendre sans souci, donc ça va, quoi. Faut pas avoir peur de ça, et nous on choisit les films entre justement plutôt des films labels ARC, mais qui peuvent attirer du monde, soit de par le réalisateur, soit par exemple on fait beaucoup de débats avec des intervenants pour donner des clés de lecture à des films qui sont sur des sujets, on parlait du Diable n'existe pas, les gens connaissent pas forcément la situation géopolitique, les secrets de tournage, et du coup nous on vient avec des dossiers de la FKE, avec des intervenants, avec notre connaissance, beaucoup de partenaires, avec beaucoup d'associations. C'est aussi ça, c'est un lieu d'échange et de partage d'idées et de visions du monde. Et là où du coup on va diffuser ce genre de film pour que ça soit un vrai lieu vivant. C'est pas on regarde juste son film, c'est vraiment on regarde et après on y pense, on y réfléchit, on en parle. Il y a des très beaux films que là on n'aime pas, il y a des films très mauvais qu'on aime.
J'imagine que d'avoir des étudiants qui sont dans l'espace, on va dire, dans l'université où il y a ce cinéma, ça peut être aussi pour eux un point central d'intérêt et aussi de réflexion, d'analyse, pourquoi pas de travaux de recherche.
Oui, c'est vrai, c'est une très grande ouverture culturelle pour les étudiants, puisque nous, en plus, on va vers eux. Tous les étudiants boursiers bénéficient de places gratuites. Nous avons, en partenariat avec l'Université de Lille, commandé 1500 places gratuites à destination des étudiants boursiers. Donc, si vous venez au cinéma, que vous avez votre justificatif de bourse, vous bénéficiez d'une place gratuite. Vous pouvez venir tant de fois que vous le voulez, tant qu'il en reste dans le stock. Vous pouvez venir au cinéma gratuitement, très régulièrement pour des séances spéciales comme la rétrospective Agnès Varda ou encore les films de Bertrand Mandico. Nous avons 50, voire même quelquefois 100 places offertes à tous les étudiants cette fois-ci. Donc c'est aussi une main tendue vers eux pour justement leur permettre cet accès à la culture qui peut être à la fois plus compliqué parce qu'il faut aller loin des fois pour aller vers la culture, notamment certaines personnes qui habitent un peu en banlieue de Lille.
Je tiens à dire, je te coupe, on a déjà vu des gens venir de Bruxelles ou de Bretagne juste à cause de films qu'on diffusait.
C'est un film spécial, il n'y a que nous qui le passons.
Et voilà. Les gens étaient très motivés quand même. J'espère que le film leur a plu parce que ça fait quand même un petit bout de route.
Alors justement, ces films que vous diffusez presque en exclusivité d'une certaine manière, du moins géographiquement, localement, est-ce qu'il y a une répartition au niveau des cinémas RSC de la région ? Je sais qu'il doit en exister 6, 7 ou 8, je ne sais pas exactement, en Haute-France. Est-ce que vous connaissez entre salles, programmateurs, est-ce que vous échangez des idées ? Est-ce que vous organisez la diffusion de certains films en décalage dans le temps pour que ça puisse faire un petit peu une tournée ?
Nous, on est un cinéma un peu comme le Méliès, on est un cinéma décalé, donc nos séances... On les paye moins cher, c'est pour ça, on va pas se le cacher. On diffuse nos films, en fait, 2 à 3 semaines après la sortie nationale. Mmh. Mais ça permet justement à des gens de rattraper les séances. On va dire, ah mince, c'est passé devant moi, je l'ai oublié. Mmh. Tiens, je vais aller le voir au kino. En plus, ça coûte beaucoup moins cher que...
Gratuit même pour cinéma. Certains. Donc
là, c'est toujours un bon plan. Mmh. Et alors après, vu que le kino, c'est une institution, une association qui est là depuis un petit moment, il y a beaucoup de gens qui ont commencé bénévoles ici et qui aujourd'hui travaillent à l'UGC, voire la Cinémathèque française.
Pour certains.
Donc, mais après, tout dépend. Là, l'UGC, du coup, le Majestic et le Métropole, parce qu'il y a eu un rachat. C'est une longue histoire. Mais du coup, ils ont des directions qui viennent un peu plus d'en haut de Paris, du siège, même s'ils ont...
Moins toujours... Majestic Métropole, mais...
Un petit peu. Mais après, ils peuvent quand même... ils ont une certaine liberté...
un champ d'action, bien sûr, oui.
De faire certaines programmations particulières. Bon, après, tu vois, le Métropole qui diffuse... Mort sur le Nil, je pense pas que ça a été l'équipe de programmateurs qui ait choisi ça.
Donc, dans les médias, on assiste à une concentration des médias. Enfin, ça vous a pas surpris ?
Non.
on voyait les choses arriver depuis un bon moment. Et là, on est quand même à une phase complexe, hein, en termes de liberté aussi, enfin, de diversité de la presse. Est-ce que dans le cinéma, on ressent ces concentrations avec une influence aussi sur la programmation, l'offre aux spectateurs ?
Peut-être pas tant en France, en fait. Il y a un gros effort qui sont faits dans le soutien du cinéma indépendant et RSC en France. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a vu entre les rachats de studios qui deviennent de plus en plus gros, Walt Disney qui rachète la Fox, puis qui rachète plein d'autres acteurs, pareil chez Universal, Warner qui rachète des parts de la MGM, qui les a revendues à Amazon. Enfin, ça va un peu dans tous les sens aux États-Unis, mais en France, on a quand même cette ligne directrice du CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui permet une redistribution déjà beaucoup plus juste vers tous les producteurs, notamment à RSC, et qui ouvre le champ des possibles à des réalisateurs qui n'auraient pas les moyens financiers de faire un film. En France, il y a des films qui n'atteignent que 40, 50, 60% de rentabilité et qui ne les dépassent pas. Mais quand on regarde le financement d'un film, il y a peut-être 40, 50, voire même 60% de financement public. Donc au final, les investisseurs privés n'ont pas beaucoup à mettre dans le film, juste de quoi, entre guillemets, compléter pour que le film se fasse. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de frilosité de la part des investisseurs ou des réalisateurs indépendants qui peuvent en France se lancer dans le cinéma, percer ou pas, hein, bien sûr, il y a des réalisateurs qui ont fait 2-3 films, mais ça ne fonctionnait pas, donc ils n'ont pas continué. Mais certains qui ont été révélés, même les premiers films de Jean-Pierre Jeunet, par exemple, ont été produits grâce à des bourses CNC et de financeurs publics, même privés, quelquefois. Quand on entend la chronologie des médias, ça inclut aussi le fait que Canal+, qui est le premier diffuseur du cinéma français et aussi le premier financeur du cinéma français, investisse une grosse part de son chiffre d'affaires. J'ai plus le chiffre en tête, mais une grosse part très très conséquente de son chiffre d'affaires dans le cinéma français. Et c'est pour ça que la plupart du temps, 5 films sur 6 que vous voyez au cinéma, il y a écrit Canal+ présente, mais il finance des films à la fois à RSC et à la fois plus grand public. Nous avons diffusé il y a pas très longtemps un film à RSC, L'Horizon, d'Émilie Carpentier, qui était venue en plus défendre son film au kino, un film à RSC sur le militantisme écologique chez les jeunes de banlieue. eh bien, c'est un film qui est coproduit par Canal+. Si vous prenez la dernière comédie de Michel Larocque, par exemple, c'est coproduit par Canal+. Non, voilà, je prends volontairement deux extrêmes. Mais c'est
un écart digne de Jean-Claude Van Damme.
Justement, Jean-Claude Van Damme, cofinancé aussi parfois par Canal+, et le CNC. Voilà, donc c'est pour dire qu'en France, on a une énorme pluralité dans le cinéma, une grande diversité, c'est important. Moi, j'entends très bien qu'il y a certaines personnes qui ont envie de voir la dernière comédie de Michel Larocque pour passer un bon moment et grand bien leur fasse.
Ça se comprend, on n'est jamais dans le jugement ici.
Exactement, ça peut même des fois nous arriver d'en regarder, des petits plaisirs coupables.
On ne répète pas tout,
voyons. Et puis, on est très content aussi que le CNC, Canal+, et justement le cinéma français offrent la possibilité à des réalisatrices comme Émilie Carpentier de financer un premier film qui, pour le coup, est plutôt réussi.
Voilà, donc j'aurais pu demander à Jacques Lemière, qui aime bien le cinéma, que vous connaissez peut-être, qui programme pour Cité Philo. Les films, la programmation film de Cité Philo, comment il voyait au fil du temps l'évolution qualitative du cinéma ou de la diversité. Vous arrivez dans un monde assez récent, on va
bien
dire.
Sûr, oui.
Et donc, comment vous ressentez cette époque que vous vivez? Est-ce que vous la sentez dynamique d'un point de vue du cinéma? Et est-ce que vous voyez une fracture entre le cinéma en salle et ce que les gens vont chercher sur abonnement ici ou ailleurs?
C'est vrai que là, justement, moi, j'avais envie de répondre à pour la question d'avant, j'avais envie de répondre à quelque chose dans cette lignée-là. Mais c'est vrai qu'actuellement, ce qui est plus compliqué, c'est le spectateur. Depuis l'éclosion, en fait, des plateformes en ligne, après, on peut se demander est-ce que ça va mourir, parce que du coup, maintenant, il y a tellement de plateformes qui existent.
C'est pas un peu dans l'œuf, quand même, au final, mais oui.
Ça peut finalement maintenant revenir plus cher que ça n'était. Avant, il y avait quand même une bonne excuse de bon, bah voilà. Avec un abonnement, j'ai beaucoup de films. Maintenant, bah oui, mais il faut avoir 7 abonnements pour un peu tout voir. Donc au final, est-ce que la salle de cinéma, c'est pas mieux?
Ou le support physique, hein.
Mais je pense qu'il y a vraiment... c'est un peu compliqué, c'est vrai que le support physique, c'est incroyable. Mais je crois qu'il y a des jeunes qui sont vraiment très militants, j'ai envie de dire, sur la salle de cinéma, sur le lieu. Là, le cinéma, c'est un lieu, en effet. Et donc... Autant, je pense qu'il y a une petite dissociation entre certains jeunes qui vont beaucoup regarder via des médias alternatifs, Internet, téléphone, ce genre de choses. Il y a des films qui sont justement pensés pour ces nouveaux médias, pour ces nouvelles façons de penser les images. Mais à côté, là, le cinéma, même s'il est passé au numérique, ça reste un lieu, ça reste une façon de voir.
La qualité est toujours très bonne. Hein.
C'est ça, une façon de voir, de concevoir l'art. Et du coup, ça... Alors, il y aura toujours des curieux.
Ce qui est aussi intéressant, je pense, au cinéma, c'est qu'on n'est pas seul en général hein, dans la salle et qu'il y a un effet public quand même, hein, ambiance, on va dire. Est-ce qu'il y a des films cultes qui rassemblent des gens justement autour d'un film et qui vivent ce film autrement que ce qu'ils n'en voient seulement à l'écran?
Est-ce que je peux répondre pour celui-là? Parce que
vas-y.
Vraiment, j'ai. Alors, il y a en effet des séances particulières, notamment aux États-Unis, sur des films cultes. Genre, je pense à Rocky Horror Picture Show.
Alors, celui-là, à Paris, pendant 10 ans, il est passé. Hein,
ouais, tous les vendredis, à une certaine salle. Ouais. Et le lendemain, il y avait une performance live par une troupe de théâtre, si je m'abuse. Ouais. Donc là, oui, je pensais aussi à ça. Où il y a des films qui vont ramener une communauté de niche. De gens qu'ils ont déjà découvert et qui vont du coup créer une ambiance assez particulière. Je pense notamment aux soirées Nanarland, là où les gens citent les répliques des films à l'unisson, à 200. C'est assez impressionnant à voir. Et à des festivals, je pense au BIF, au PIF, avec 3F pour Fantastic Film Festival, là où il y avait vraiment des films un peu bis, n'ayons pas peur de le dire, un peu nanar, un peu navet, mais là où ça va créer du coup... une hilarité ou une certaine ambiance qu'on n'aura pas devant d'autres films. Donc oui, c'est en effet un lieu de partage. Je pense qu'un film en comédie... Enfin, moi, j'ai déjà vu certains films comiques. Et selon la salle, je n'avais pas eu du tout le même ressenti. Parce qu'il y avait une salle qui était très ouverte, très réceptive à l'humour. Et ce qui m'a permis, moi aussi, de m'imprégner ça. Et d'autres films où c'était assez fermé. J'avais presque honte de rigoler devant le film.
Est-ce que vous inscrivez parfois dans des dynamiques de festivals ou de partenariats avec des événements locaux, régionaux ou nationaux?
Oui, tout à fait. Parmi tous nos partenaires, il y en a certains qui organisent des festivals dans plusieurs cinémas et auxquels on adhère volontiers. On peut citer par exemple le festival Télérama, qui a lieu toujours au mois de janvier et qui reprend le meilleur des films de l'année précédente, selon Télérama et selon aussi un jury jeune public. Cette année, le Festival Télérama s'est tenu la dernière semaine de janvier. Puis, on peut citer pêle-mêle des films de l'année 2021, Annette, M'adresse par Alélas, Le Diable n'existe pas, Dune, donc justement choisi par le jury jeune public. Ça permet aussi de découvrir du coup l'essence bien bien en retard quelquefois de films qui ont marqué l'année. Nous avons aussi comme partenaire Art House qui fait le festival Annabi pour chaque saison. Peut-être Clément, tu veux nous expliquer qu'est-ce que c'est Annabi?
Non, mais c'est, enfin oui, Annabi du coup ça se sépare en saisons. Il y avait la saison hiver par exemple où c'est une rétrospective, une ressortie de certains films. Là on avait eu, tu me diras le mois Quentin, une rétrospective de Koji Fukada et
semaine de février.
Merci beaucoup. Et deux autres films qui étaient A Silent Voice, qui est un film d'animation assez beau, et La Saveur des Ramen, qui est un film incroyable qui donne envie de manger.
On peut le revoir, ce film, La Saveur des Ramen.
Il n'est pas encore sorti, je crois.
Si, ah bah, si bah, c'était une ressortie, donc oui, il doit être sorti en Blu-ray et tout.
Mais pas Silent Voice sort dans...
Non, c'est sorti, c'est sorti. Parce que ça, c'était ressorti.
C'était automne, voilà. Ça, c'était un habit automne.
Non, c'est hiver. Attends.
Non, hiver, c'était les avant-premières.
Ah, c'est les avant-premières. Voilà, ah, c'est moi qui m'entends.
Donc, ça, c'est voilà, Annabi automne, qui était la dernière semaine de novembre. Et puis, nous avons.
Bah, c'était un peu l'hiver, quoi.
Ouais. Et la première semaine de février, nous avons eu les saisons Annabi hiver, qui étaient là, par contre, pendant une semaine, chaque soir, un film en avant-première, avec notamment le film d'animation Poupelle, qui sortira l'été prochain.
Avec Philippe Catherine.
Avec Philippe Catherine, qui double un des personnages en VF. Suis-moi, je te fuis. Aristocrates, par exemple, Aristocrates qui sort dans deux semaines. Voilà. Ça permet aussi, pendant une semaine, de vivre justement au rythme du Japon, comme le dit le sous-titre du festival.
Arigato, Kentan-san.
Voilà, j'ai pas compris ce que t'as dit, mais au rythme du Japon, et de découvrir chaque jour un film d'une autre culture, avant même qu'il sorte au cinéma. Ça permet de se plonger un petit peu pendant une semaine dans une bulle, dans une ambiance, Japon.
Notre esthétique en avant-première. Et j'en profite parce que du coup, le 19, si je me trompe pas, oui c'est ça, le 19 de ce mois-ci, on a deux séances particulières pour le festival du court-métrage.
Oui.
Dans le cadre du festival de la fête du court-métrage, on diffuse deux séances. Alors je vous laisse aller sur leur site pour voir taper le nom des programmations et voir les courts-métrages. Il y a Histoire de famille et Toons en folie. Du coup là ça va être beaucoup de ressorties de films un peu Tex Avery, Anna et Barbara.
Histoire de famille, c'est beaucoup de courts-métrages un peu du monde entier aussi, hein, puisque dans la programmation il y a du français, il y a du belge, il y a du serbe, mais courts-métrages autour de la famille.
Alors, petite question, quand vous avez une séance, j'allais dire normale, est-ce que vous mettez avant, est-ce que vous projetez aussi un court-métrage?
On essaye le plus souvent quand on n'a pas trop arrive. D'annonce, mais... Oui, on en a, c'est avec Flux ou Fluxus.
Flux avant programme, qui est un de nos partenaires depuis quelques années maintenant, qui propose des avant programmes. Ça peut être des courts métrages, comme découvrir en 3 minutes le métier de projectionniste, découvrir en 3 minutes le métier d'exploitant,
des présentations de films,
de producteurs, des présentations de films, etc. Et on essaye dès que c'est possible, qu'il n'y a pas trop de bonnes annonces ou que le film s'y prête aussi, de diffuser un court-métrage avant le film. Je sais que là, en ce moment, on diffuse régulièrement le court-métrage Le Moine et le Poisson de Michael Dudok de Witte, qui a réalisé par la suite La Tortue Rouge.
Splendide film.
Voilà, splendide court-métrage aussi.
Oui.
Qui est diffusé parfois avant les films quand il n'y a pas trop de bonnes annonces. Voilà.
Donc, je rappelle que vous écoutez Radio Campus, chers auditeurs, et que nous parlons du cinéma Le Kino de Villeneuve-d'Ascq, cité scientifique, Kino de
Campus
Pont-de-Bois de l'Université de Lille. Et donc, peut-être le moment est venu de présenter vos prochains grands événements, pourquoi pas vos festivals, si vous en avez. Comment vous abordez, peut-être, je ne sais pas, le festival de Cannes, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a des événements auxquels vous êtes, sinon associés, du moins pour lesquels vous êtes intéressés, et peut-être que vous déclinez d'une certaine manière à un moment ou un autre.
Alors justement, ce mois-ci, en partenariat avec l'Université de Lille, c'est un mois sur la diversité homme-femme, et donc en prévision de...
C'est un mode d'emploi.
Oui, mais non pas mode d'emploi.
C'est une petite blague privée sur le fait que Quentin a diffusé...
Homme-femme, mode d'emploi, il y a quelques mois.
C'est ça.
Avec Bernard Tapie. Et donc justement, en relation avec l'Université de Lille, nous faisons une rétrospective Agnès Varda en prévision de l'inauguration d'un amphithéâtre à son nom. Et donc, dès ce soir, vous pouvez retrouver La Pointe Courte, son tout premier film, long métrage déjà une réussite en fait, son tout premier film sorti en 1956. La semaine prochaine, Cléo de 5 à 7, sorti en 1962, qui marque vraiment le début de la nouvelle vague au féminin, réellement.
Oh, pointe courte quand même déjà.
Oui, c'est un début, mais disons que c'est vrai que Cléo de 5 à 7,
bah, disons que c'était son passé de photographe en fait.
Exactement,
elle
n'a
pas une formation de réalisatrice.
Au départ, ouais, elle est devenue réalisatrice un peu par hasard. Hein.
Oui, oui, totalement.
Et donc, justement, Cléo de 5 à 7 qui entérine complètement dans la nouvelle vague à la fois Agnès Varda et aussi la place des femmes
hein, oui, totalement.
Dans la société des années 60. Puisque mai 68 viendra après, les radios libres, Radio Campus, etc. On va pas refaire toute l'histoire.
Foulée, ouais.
Et puis, nous diffuserons prochainement, en même temps que l'inauguration de l'amphithéâtre Agnès Varda, en espérant avoir des invités spéciaux, des petits guests, on n'en dévoile pas plus pour le moment. L'une chante, l'autre pas, un film de 1977 qui a aussi marqué sa carrière.
Ouais.
Et ça s'inscrit dans notre formule Kino Rétro, puisque nous proposons tous les mois une rétrospective d'un réalisateur, d'une réalisatrice, d'une troupe. Par exemple, puisque nous avons fait une rétrospective Monty Python, qui se termine la semaine prochaine avec Le Sens de la Vie. Donc cette fois-ci, la rétrospective Agnès Varda, et prochainement, à partir du mois d'avril, une rétrospective, cette fois-ci, autour d'un auteur, Monsieur Stephen King.
Ah ouais.
Voilà, l'occasion de redécouvrir les plus grands réalisateurs du cinéma, un petit peu de tous les pays, de tous les horizons, et de tous les genres de cinéma.
Bon, ben, beau programme. Est-ce qu'on peut rajouter encore quelques petits éléments pratiques?
C'est-à-dire pratique?
Ben, pratique du genre, à quelle heure les programmations sont le plus souvent. Là, on a parlé des places pour les étudiants boursiers. On a dit aussi qu'il y avait quelques places, 50 ou parfois, voilà.
En tout cas, 100 places pour Agnès Varda, 100 places
offertes. Pour Agnès Varda. Comment, pour que ce soit offert, on réserve avant ou on y va et boum, bingo, on tire au sort ou comment ça va?
C'est les premiers. Prenez arrivé, prenez servi.
D'accord.
Vous pouvez aussi venir à l'avance, hein, si jamais vous venez au guichet à l'avance, ou que vous venez voir un film et vous me dites « Ah ben demain soir, je voudrais déjà une place », vous pouvez l'avoir.
Est-ce que les étudiants qui sont à Pont-de-Bois ont un délit d'initié ou pas? Ils ne sont pas au courant avant les autres?
Non, on n'est pas au courant avant nous-mêmes. Donc
Non, c'est ça. Ouais. Nous, dès qu'on est au courant, dès que c'est calé, on le lance
ça
partout.
Va,
c'est pas un
va.
Secret traditionnel, on l'ouvre à tout le monde. Hein, c'est aussi un lieu donc, accessible à tous.
Et votre programmation, elle est en ligne quelque part?
C'est ça, sur nos réseaux sociaux, du coup, Facebook, Twitter, Instagram.
Ouais.
On a aussi du coup, des petits flyers qu'on met à disposition. Tout, c'est bien pour mettre ça sur le frigo.
Et puis le site internet.
Et le site
www.kino-ciné.com où vous pouvez retrouver toute la programmation, les bandes annonces, les résumés, les événements, et toutes les informations pratiques sur le cinéma.
Voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
Moi, j'ai juste envie de dire
oui,
le mercredi 16, il y a une petite double. On ressort Les Garçons Sauvages, les 50 premières places sont offertes et j'animerai un débat. C'est vraiment un réalisateur qui me tient beaucoup à cœur, donc j'ai fait.
Bertrand Mandico.
J'aimerais bien parce que tout le monde ne connaît pas et moi je suis allé voir, vu que vous aviez envoyé l'info, hein, je suis allé voir un peu la bande, machin, et j'ai trouvé ça très intéressant. Tu peux rappeler un peu cette histoire-là, ce dont ça parle, ce film?
Alors, c'est un film où il faut un peu avoir la découverte, mais Les Garçons Sauvages, on va dire, c'est un film qui commence un peu comme Orange Mécanique, mais qui va très vite s'hybrider avec d'autres films, d'autres références et partir ailleurs dans du fantastique notamment. Donc c'est des garçons un peu bourgeois, mais qui ont en eux une pulsion très violente, qui vont commettre un crime et qui vont se retrouver en fait à devoir faire une excursion punitive dans une île avec plein de végétation un peu hormonale, avec des arbres un peu phallus, des champignons fessus. Là, c'est donc un type de film assez particulier. Je tiens à prévenir les gens, là, il y a par exemple des représentations de viol. Là, faut quand même le dire. Mais là, c'est un cinéaste totalement hybride, innovant, qui tourne en pellicule. C'est vraiment du cinéma français dans ce qu'il a le plus beau en termes de proposition esthétique et intéressante, très queer. Et encore là, je parle de ça, mais on peut aussi parler, ça va reprendre un peu des écrits de Foucault et de Deleuze sur les sociétés de contrôle. Donc là, c'est un cinéma très, très épars, assez incroyable. Son prochain film, After Blue, qu'on diffusera du coup aussi cette semaine-là, et dont la séance du jeudi 17 à 20h, il y aura aussi 50 places pour que vous venez le voir et essayer de le découvrir. C'est une espèce de fusion entre un western et de la SF post-apo, ambiance métal hurlant, quoi. Donc,
voilà. Et donc
incroyable.
Ça, c'est jeudi 17 à quelle heure?
À 20h, du coup.
D'accord. Et on peut dire qu'on peut venir sans passe sanitaire maintenant.
À partir de lundi prochain.
À partir
tout
de mardi.
À fait. C'est mardi? C'est pas le 14, hein?
Si.
Si, si, 14, 14, c'est
lundi.
Le
va.
14, c'est lundi. À partir de
et
lundi prochain, le
pass
vaccinal n'est plus de mise dans le cinéma, comme le masque. Hein, une fois que vous êtes assis à l'intérieur de votre salle, vous pouvez le retirer. Vous pouvez garder une petite distanciation, c'est toujours bien. Mais...
Et donc le lundi aussi, ça fonctionne chez vous?
Bien sûr, ça fonctionne du lundi au vendredi tous les soirs.
Ouais.
Et le samedi toute la journée.
Voilà. Et donc il y a un accès, on va dire, privatif par rapport à l'université?
Alors vous pouvez y accéder depuis la place du Forum, hein, l'entrée du bâtiment A pour ceux qui connaissent. Mais il y a un parking et un portail, l'entrée Kino, qui permet, lorsque l'université en elle-même est fermée, je pense par exemple au samedi soir, d'y accéder. Voilà, il y a toujours un portail qui est ouvert. Nous sommes un phare dans la nuit, le panneau
voilà.
Cinéma, le Kino, toujours
en
là
fait,
pour vous accueillir.
Nous sommes les deux lieux stratégiques et permanents de l'université.
C'est ça, exactement.
C'est ça, Radio Campus et le Kino.
Et c'est pour ça qu'on se rejoint des fois.
Ouais.
Comme aujourd'hui.
Merci de votre visite et bon film, bon cinéma.
Avec grand plaisir.
Et bon projet à venir, bien sûr. Merci beaucoup.
Merci.
Je rappelle que nous étions avec Quentin à ma droite et Clément à ma gauche. Bonjour et à bientôt.
Enfin. Thank you.